Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pexe, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Yo yo yo, chers auditeurs.
Yo yo yo, chères auditrices.
Et bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par votre joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
Ce soir, c'est le retour du duo des semaines paires aux platines.
Et oui, Richelieu, c'était éprouvant à animer pour la team impaire. Et il faut ménager leurs mandibules avant que l'arthrose ne s'en charge.
C'est donc avec toi la mascotte de l'émission, Victoire.
Et avec toi, la tête brûlée de la bande, ma chère Mélie, que nous allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio ce soir, on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Vous êtes moniteur d'auto-école.
Ouais.
Ça fait longtemps.
Ouais.
Il a un rire extraordinaire. Hein,
mais aussi des débats poignants.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Messieurs.
Et de la culture.
Qui a immortalisé
Stéphanie de Monaco.
Mais attendez, je vais quand même jeter un petit peu les bases du jeu, c'est-à-dire que je pose une question d'abord et vous répondez après.
Ah, c'est vous qui décidez.
On va faire avec. Alors, première question. Qui a immortalisé le grand air du Carmen?
La question est finie.
C'est fini, là.
Stéphanie de Monaco.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Victoire, je vois encore une nouvelle tête. Une par mois, on ne s'arrête plus. Thomas devrait faire chasseur de têtes.
Mais tout à fait, Mélie. Ce soir, on accueille Isa. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour ta première?
Bonsoir. Ce soir, on redécouvre la cour qui donne son nom à l'émission. La cour d'honneur, sous le regard curieux des étudiants de Sorbonne Université.
Jeanne, après la superbe émission de Richelieu, tu ne te passes plus d'interview?
Et non, je ne m'arrête plus. Ce soir, je reçois Adeline Vrona, enseignante au CELSA.
Lilou, apparemment, t'as super hâte d'être à la prochaine émission. Et oui, ce sera enfin le printemps.
Et oui, et d'ailleurs, je vous donne un avant-goût du printemps avec l'édito.
Marine, on est heureuse de voir que t'as renouvelé ton abonnement CDH. T'as pris l'option chronique cette semaine?
Et oui, et ce soir, on va parler du bébé nageur Macron dans la Seine prochainement.
Sora, tu restes dans le thème de l'édito de Maëlys à Richelieu.
Disponible sur Deezer et Spotify, allez streamer s'il vous plaît.
Bref, l'édito sportif de la dernière fois, ça t'a inspiré?
Exactement, du coup j'ai décidé de vous donner mes bons plans pour pratiquer du sport pour pas cher.
Et Madeleine, tu nous as concocté quelque chose ce soir?
Bonsoir, non, moi j'ai juste ma présence lumineuse, voilà.
Ça nous suffit.
Bon, n'oublions tout de même pas notre duo made in l'EHPAD.
Tout à fait, Abel et Lodine sont inséparables. Quand ils n'animent pas, ils nous préparent des chroniques en duo.
Et on va pas se mentir, ça fonctionne plutôt bien, hein Victoire?
Ah ça c'est sûr, qu'est-ce que vous nous racontez ce soir?
Ce soir on vous raconte...
l'histoire de Pierre Curie.
Et puis Thomas, stagiaire, régisseur, chroniqueur et chasseur de tête à ses heures perdues, alors chronique ou pas, il a sa place au studio.
Salut tout le monde, ouais, merci de m'accueillir, je suis trop content.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois.
Saison 3, épisode 17, cours d'honneur, c'est parti.
Ah, l'hiver,
la pluie,
le ciel gris,
la pluie,
le verglas,
la pluie.
Bon, Victoire, on va quand même pas leur faire un remake de notre première anime.
Désolée, je suis nostalgique.
Mais Victoire, pleure pas, je te propose de te redonner le sourire avec l'édito.
La carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment...
Carte blanche.
Et oui, on arrive déjà en mars et c'est bientôt le printemps.
Pour vous donner un peu de positif ce mois-ci, Lilou vous a préparé 6 raisons pour retrouver le smile et sortir de la grisaille hivernale.
Alors, normalement on devrait entendre des oiseaux, mais imaginez-les dans vos esprits. Est-ce que vous entendez cette douce mélodie qui vous rappelle le printemps, les fleurs, l'amour?
On est rentré en mars, plus qu'à quelques semaines du printemps, et je sais pas vous, mais lundi j'ai senti des rayons de soleil sur ma peau, et ça y est là, je renais. Enfin bref, plus sérieusement, je voulais profiter de ce début du mois de mars pour vous donner quelques raisons pour être heureux, parce que entre les partiels qui approchent, les concours et les choix de master, il faut garder le smile. Déjà, et c'est peut-être la meilleure nouvelle du jour, merci le réchauffement climatique, dites adieu au grand froid ce mois-ci car on ne devrait plus jamais descendre en dessous de 12-14 degrés. Alors vous qui grelottez depuis 4 mois, il est temps de ressortir veste en jean, robe, pantalon fluide. Et c'est d'ailleurs ça ma deuxième raison pour être heureux, on va enfin redevenir beau ce mois-ci. Entre le soleil et nos vêtements de printemps, on a déjà l'air sorti de la dépression hivernale. La troisième raison, elle est un peu cucu, je vous l'accorde, c'est que qui dit printemps dit amour. Et oui, si vous pensiez que l'amour vous a passé sous le nez cette année à cause du fiasco de votre dernière Saint-Valentin, sachez que selon Once, une application de rencontre investigatrice, la meilleure période pour tomber amoureuse, c'est le printemps. Il fait beau, on arrive à la fin de l'année, les gens veulent sortir, alors c'est le moment de se lancer dans une opération séduction avec votre crush, vous avez toutes vos chances. Autre raison d'être heureux ce mois-ci, sachez que c'est le mois le plus féministe de l'année. On se réjouit entre l'adoption dans la Constitution de la liberté garantie du droit à l'interruption volontaire de grossesse et le 8 mars, ce vendredi, journée mondiale des droits des femmes. C'est à peu près le seul mois de l'année où on célèbre les femmes, alors profitons-en. Et pour continuer sur cette lancée, je m'adresse à tous les cinéphiles et je vous invite à venir assister au Festival International de Films de Femmes du 15 au 24 mars qui défend le cinéma de réalisatrices du monde entier depuis 1979 à la Maison des Arts de Créteil. Pour continuer sur cette petite recommandation d'event, je ne pouvais pas passer à côté de l'Expo Zoo Paris Animal Show les 9 et 10 mars 2024 à Porte de Versailles. Parce que si vous êtes en mal d'amour, ce salon est fait pour vous. Vous pouvez y adopter votre futur animal de compagnie ou amener le vôtre pour qu'il se fasse des amis. Et la dernière et meilleure, bien sûr, raison pour garder le smile, parce qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est qu'on est à un mois pile de l'émission Cours d'honneur spécial Banyuls, où vous pourrez retrouver vos chroniqueurs préférés partis chercher le soleil dans le sud de la France, mais surtout partis explorer la station biologique de Banyuls sur les bords de la Méditerranée.
Merci beaucoup Lilou. On a clairement compris que toi, t'étais team printemps à fond, mais vous, autour de la table, pas trop nostalgique de l'hiver ? Je sais pas, les films de romance, tout ça.
Si, ça me manque déjà d'avance parce que le côté il fait chaud, t'es là, t'es pas bien. Alors que l'hiver t'es bien, t'es dans ton petit truc, ton plaid, c'est bien.
Ouais, ah, moi je suis pas du tout d'accord. Hein. Moi vivement le printemps, vraiment. On est d'accord Thomas, ouais.
Pour boire des verres en terrasse, c'est ça ?
Boire des verres en terrasse, se promener sous le soleil, enfin je sais pas, juste ça fait rayonner la vie quoi.
Enlever tous les boutons de sa chemise, Thomas.
De toute façon, Thomas, il pète un plomb là depuis le début de l'émission. Pas le bon tapis. Le stage va pas être validé là, ça va être compliqué. Hein.
Bon, et comme la météo chelou qu'on a en ce moment, dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et comment ?
Oui, j'irai.
Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien par cette phrase que notre futur bébé nageur Macron a répondu au journaliste jeudi dernier, assurant qu'il se baignera bien dans la Seine au moment des JO 2024. Bah oui, c'est vrai quoi. C'est une occasion en or de se ressourcer dans l'eau pure, que dis-je, cristalline du fleuve. Natation synchronisée, plongeon olympique, voire même, poussons le rêve, brasse-coups les mains dans la main avec Anne Hidalgo. Si à l'Elysée, on a décidé de rester dans le silence des fonds marins jusqu'à l'été, c'était sans compter sur la ferveur du peuple français, alimentant déjà tous les fantasmes autour de la performance aquatique du président. Mais alors, Macron pourra-t-il piquer une tête sans se noyer ?
C'est toi, Marine, qui vous a posé la question.
Moi, je m'en fous un peu des faits et gestes de Macron, malheureusement, ou heureusement. Donc, il peut bien faire ce qu'il veut, genre.
Il fait ce qu'il veut, hein. De toute façon, on n'est pas là pour lui dire. Après, s'il a envie d'avoir des boutons sur la peau, il n'y a pas de souci, qu'il les ait. Puis au moins, on verra si elle est dangereuse ou non. S'il meurt, bah voilà, c'est que ce sera mortel. S'il est vivant, c'est que c'est bon. Il va ressortir avec des boutons, je pense, mais bon, voilà, c'est son choix.
Moi, je trouve ça un peu inutile, ce genre de communiqué.
Déjà d'une part parce qu'il y a un génocide en cours là, donc franchement on a d'autres préoccupations. Je trouve que c'est un peu digne d'une star de la télé-réalité de partager ce genre d'informations. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Surtout qu'il y a déjà des athlètes qui se sont entraînés dans la Seine et qui sont allés à l'hôpital tout de suite après. Donc voilà, s'il veut mourir, c'est son problème.
Je pense que c'est une bonne chose, ça envoie un message positif pour les Jeux Olympiques. Après, c'est aussi un exercice de communication classique pour justement envoyer un message positif, même si... est-ce qu'on est vraiment prêt? La réponse à la question, on ne sait pas vraiment. Et est-ce que on va finir par nager dans la Seine pour les JO? On ne sait pas non plus.
À part nous ridiculiser, franchement, je vois pas ce que ça peut apporter. Mais bon, la presse internationale va être contente, quoi.
Bah, c'est une bonne occasion de.
N'importe quoi.
Si, c'est une... moi je trouve que c'est une bonne occasion de juger un peu le physique de Macron, de voir à quoi il ressemble sous son costume, voilà.
Lodine, en parlant de performance aquatique, je crois que tu imites super bien le poisson.
Ah non, mais c'est exclusif pour me convaincre là de le refaire.
Merci beaucoup Lodine. Toi, tu trouves vraiment ta place parmi les poissons dans tout le positif que ça peut avoir. Je sais que nous, les Parisiens, on a eu des grandes lubies sauter dans la Seine, ça en fait partie, avant qu'elle soit nettoyée. Est-ce que vous le feriez ou pas?
Je l'ai fait.
Oui, mais t'es parisien.
Bah oui.
Attends, t'as sauté dans la Seine?
Oui, du pont de Sully dans le...
Non, mais...
À Bastille, je sais plus
combien... Tu étais à combien de grammes, Abel?
Même pas, j'étais au collège.
En fait, oui, bah... si... Et t'as survécu.
Il y avait un truc au collège, pour les Parisiens, les derniers jours des cours, soit on allait se baigner dans le canal Saint-Martin, soit dans la Seine. Enfin, la Seine, c'était rare, et en plus, faut le faire la nuit, parce que tu te fais arrêter. Mais le canal Saint-Martin demandait à beaucoup de Parisiens, qui étaient au collège vers République et tout... Ils se sont tous baignés dans le canal Saint-Martin une fois dans leur vie.
Bon, au-delà de la Seine, on a découvert l'affiche des JO. Vous en pensez quoi?
La première fois que je l'ai vue, j'ai cru que c'était la nouvelle affiche du festival d'Angoulême. Ça fait trop JO, c'est un avis, mais c'est
après, fun. C'est beau. Hein. C'est très stylé. Mais est-ce que ça représente vraiment ce qui va arriver? Non, je sais pas.
Bien. Moi, j'aime bien, elle est belle. Hein.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai trouvée super belle. Voilà. Moi, je la trouve très belle, mais ça fait un peu genre future affiche du film 512 de Wes Anderson en mode couleur pastel partout. Et après, t'es là, mais c'est censé représenter les JO de Milan.
Moi, j'ai bien aimé.
Un avis très objectif sur Cours d'honneur.
Je le vois bien sur un pull.
Peux-tu développer vrai. Victoire?
Oui, très.
J'aime pas. Pourquoi? Argument.
C'est moi qui présente l'animation, pas toi, Marine. Donc, je ne développerai pas mon argument.
C'est moi qui pose les questions.
Elle a notamment fait débat parce qu'on ne trouve pas vraiment les couleurs de la France. Ils ont retiré
la tour Eiffel.
Ils ont enlevé la croix, ils ont mis une flèche, j'ai vu ça.
Moi déjà, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n'était pas uniquement Paris qui était représenté et qu'en fait, quand tu
le port de Marseille,
voilà.
Le port de Marseille.
Franchement, j'avais pas cette subtilité dans le regard. Ouais, voilà.
En tout cas, c'est un vrai film comique cette organisation des JO.
Ah ça oui, on va en avoir du divertissement cet été.
Et pour rester dans le thème du ciné, je te propose une chanson de Jack et la mécanique du cœur.
J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes.
Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette, au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux.
Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confettis, pour vous embrasser sous une pluie
de confettis.
Oui, allons-y.
Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement, je peux me perdre au loin. Du feu.
déciderai à l'extérieur de votre tête. Je serai votre paire de lunettes, vous seriez mon allumette.
Il me faut vous faire un aveu, je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre deux petits vieux.
On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette. Et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux.
Je sais, je suis une flamme de tête, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je m'enflamme allumette, mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes, sans penser à rouvrir les yeux.
Elle danse comme un oiseau, en équilibre, sur ses petits talons aiguilles. Ses pieds commencent à s'en mêler, son joli nez vient de s'écraser.
Sur le pavé, je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils sont ce que l'on confond le mieux avec les cieux. C'est merveilleux, les arbres bleus.
Que du feu, en quelques pas seulement, je peux me perdre loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel, droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement, je peux me perdre loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel, droit dans les yeux, je n'y vois que du feu.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9 FM, et il est 20h17. C'était Flamme Allumette de Dionysos.
Mélie, t'es stressée en ce moment, toi ?
Mais oui, Victoire, je suis en pleine période de concours pour faire de cette activité très sympa qu'est la radio mon métier.
Et en plus, on dirait bien que Thomas a signé un contrat machiavélique avec le CELSA. Il nous rappelle à chaque émission que les concours, c'était il y a 2 semaines et que les résultats sont dans moins d'un mois, quoi.
Ça, c'est sûr, c'est stressant, mais c'est qu'ils sont intéressants, ces invités.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe. He created a man who became a monster.
Aujourd'hui, excuse-moi, Jeanne, à chaque fois que c'est toi, je suis subjuguée, j'arrive plus à parler.
D'accord.
Aujourd'hui, Jeanne, tu reçois Adeline Rona, essayiste, enseignante-chercheuse au CELSA et également professeure à Sorbonne Université.
Bonsoir Adeline Rona.
Bonsoir.
Vous êtes donc enseignante spécialisée dans la communication. Vos travaux portent notamment sur le journalisme et la littérature du 19e siècle. Ma première question est une question d'actualité, puisque dans une tribune publiée le 2 mars dans le journal La Croix, la scientifique Aurélie Jean explique qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, le journalisme est un métier d'avenir. D'après vous, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans le futur du journalisme ?
Vaste question. On a tendance à penser que, d'une façon ou d'une autre, le journalisme va être fragilisé par l'intelligence artificielle, qu'on va remplacer les journalistes. Et ça fait très longtemps qu'on pense que les journalistes vont être remplacés par des machines. Jules Verne avait déjà un peu ce genre de représentation à la fin du 19e siècle. Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a sans doute des moyens d'investigation qui peuvent être développés grâce à l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas avec le numérique, ce qu'on appelle le data journalisme, par exemple. C'est une façon d'enquêter à partir de données ouvertes qui sont disponibles en ligne, mais qui sont tellement nombreuses, tellement massives qu'on ne peut rien en faire humainement. Et là, des outils d'intelligence artificielle vont permettre de lire à la place des journalistes des grosses quantités de façon de plus en plus fine pour faire gagner du temps à l'enquête. Cela dit, ça ne remplacera jamais l'enquête du journaliste et l'écriture journalistique surtout.
Vous avez donc écrit sur beaucoup de sujets, notamment sur la question du portrait, le portrait peint, mais également écrit dans les magazines féminins. Vous parlez d'un portrait qui est à la fois idéalisant et réaliste. Quel rôle jouent les réseaux sociaux, là où chacun peut faire le récit de sa vie dans la tradition du portrait ?
Alors, les réseaux sociaux, en fait, c'est une immense machine à portrait. Quand on regarde Facebook, par exemple, bon, je sais que vous utilisez sûrement plus du tout Facebook.
Si, toujours, toujours.
Ah, après, il y a un petit retour, j'ai l'impression, sur Facebook Marketplace ou des trucs comme ça. Mais bon, Facebook, on ne s'en rend pas compte en français, mais en anglais, ça veut dire livre de visage. Donc, en fait, c'est des portraits. Et tous les réseaux sociaux dépendent de ce qu'on peut appeler une logique de profil. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas exister sur les réseaux sociaux si vous ne dites pas qui vous êtes et que vous ne donnez pas quelques éléments qui vous définissent et qui vous caractérisent. Donc, en fait, on est presque obligé de faire son portrait quand on veut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Simplement, ce n'est pas forcément le portrait de soi-même, vraiment. Moi, il y a mon chat à ma place.
C'est très bien aussi. Vous dites dans votre ouvrage que le portrait se transforme au gré des évolutions techniques, des valeurs et des normes d'une époque. D'après vous, quel serait le portrait de notre époque ?
Ah, c'est compliqué.
Vaste question, oui, mais...
Le portrait de notre époque, oui.
À définir en un mot ou en une image.
Je dirais, c'est un portrait où les individus sont particulièrement reliés les uns aux autres. En fait, quand j'avais commencé cette recherche, j'étais agacée par un discours ambiant qui dit « Tout le monde est de plus en plus narcissique, les réseaux sociaux sont un lieu d'exposition de soi ». Il y a de plus en plus d'individualisme. Et en fait, je trouve que sur les réseaux sociaux, dans les médias numériques, au contraire, on a tendance à s'exposer, mais parce qu'on s'intéresse aussi beaucoup plus aux autres. Donc, je pense que le portrait de notre époque, c'est une époque où les individus sont particulièrement mélangés les uns aux autres, mais où on a du mal à faire le tri entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi.
Vous avez participé à l'édition Flammarion GF de l'ouvrage Zola Journaliste, qui regroupe les articles et chroniques d'Émile Zola, connu pour ses travaux littéraires, dont la fameuse fresque romanesque des Rougon-Macquart. Je dis toujours Macabre, navré Zola.
C'est assez bien vu.
Oui, pardon. C'était un lapsus. En tant qu'écrivain, quel regard pouvait-il porter sur le monde ou dans ses articles ? Est-ce qu'il y avait une plume particulière qui pouvait romanesque.
Alors, quel regard sur le monde ? Il était évidemment très sensible aux injustices. Il avait du mal à supporter l'injustice et il a lui-même connu la grande pauvreté. On a l'image de Zola comme d'un écrivain très installé, lecture obligatoire au collège, tout ça. Et en fait, il a commencé sa vie vraiment très pauvre et il a eu du mal à s'imposer, à gagner sa vie, etc. Et donc, il est resté très sensible aux inégalités. C'est ce qui explique aussi son engagement dans l'affaire Dreyfus. Après, à la différence de notre époque, je pense, à son époque, on était facilement persuadé que ça irait mieux plus tard. Et donc, il avait l'impression que ces inégalités, ces injustices dont il était le témoin, on pouvait agir contre, et qu'être écrivain, c'était aussi agir contre ça.
En parlant de l'affaire Dreyfus, justement, l'article le plus célèbre d'Émile Zola se nomme « J'accuse ». Il a été publié le 13 janvier 1899 dans le journal L'Aurore. Il est aujourd'hui une référence dans les discours politiques ou l'imaginaire collectif. Comment expliquer la fascination autour de cet article ?
Alors, l'histoire de cet article, elle est vraiment incroyable parce que, en fait, ce n'est pas Zola qui a trouvé le titre « J'accuse ». C'est le directeur du journal où a été publié l'article, qui était Clémenceau. Alors, dans le texte de Zola, il y avait beaucoup de répétitions en anaphore de J'accuse, mais c'est Clémenceau qui a eu l'idée d'en faire un article en une. Et donc la puissance de cet article, c'est vraiment à la fois le texte de Zola, mais c'est aussi le côté travail d'équipe, en fait, parce qu'il y a Clémenceau qui a eu l'idée du titre, il y a eu l'équipe de L'Aurore qui a mis en page l'article, et ce que j'ai appris récemment par un chercheur qui s'appelle Alain Pagès, c'est que les ouvriers typographes de L'Aurore Ils ont inventé un caractère d'imprimerie exprès pour que le titre de Jacques soit énorme comme ça, tout en étant minuscule. Et ce caractère, on l'a appelé J'accuse, jusqu'à ce qu'il disparaisse, mais au milieu du XXe siècle, il a survécu très longtemps. Donc la force de l'article, c'est la force du texte de Zola, mais aussi de tous les gens qui étaient avec lui pour en faire un événement communicationnel, en fait.
Beaucoup d'autres écrivains ont également été journalistes comme Zola. On peut citer les frères Goncourt, Théophile Gautier ou encore plus récemment Albert Camus. En quoi le journalisme et la littérature se rejoignent-ils ?
Alors, c'est vrai qu'au XIXe siècle, tous les écrivains, à une exception près, ont été journalistes. C'est que Flaubert, voilà. Il faut exclure Flaubert. Mais c'était obligatoire parce qu'en fait, le marché du livre n'allait pas très bien. Et donc, le journal était un débouché plus accessible, en fait, pour les écrivains. Le lien entre littérature et journalisme, je le trouve encore très vivace aujourd'hui, très présent. En fait, c'est deux façons de raconter le monde sur des supports différents, mais qui peuvent se croiser dans le même souci de nous rendre sensibles aux histoires, surtout si elles sont vraies. Donc il y a encore beaucoup d'écrivains journalistes aujourd'hui, comme Emmanuel Carrère par exemple, ou Marguerite Duras aussi avait été journaliste. Et en fait souvent, les écrivains d'abord s'inspirent des journaux. Ils lisent les journaux, ils entendent raconter une histoire incroyable qui est vraie et c'est le point de départ d'un livre. Par ailleurs, les journalistes, ils sont habitués à raconter des histoires et très facilement, ils vont en faire des livres. En fait, c'est deux activités très proches, sur des supports différents, avec des économies différentes, mais ça marche ensemble.
Vous avez notamment participé au projet Jourdain, un programme interdisciplinaire du journalisme de données, donc le data journalisme. Quel est le plus grand défi auquel le journalisme est confronté aujourd'hui, d'après vous ?
Alors, le plus grand défi, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment gagner de l'argent avec l'information. On n'a jamais eu autant besoin d'informations et on peut même dire que les gens n'ont jamais été aussi informés. C'est-à-dire qu'on passe un temps fou à lire des informations, même si c'est numérique, c'est quand même de la lecture. Mais le problème, c'est que ça rapporte plus d'argent directement. Donc le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs de ce qu'on appelle les GAFAM ou les big tech, comme on dit plutôt, qui vont tirer beaucoup de revenus, notamment de contenu journalistique, mais qui ne payent rien pour ça. Google, Facebook, etc., vont rediffuser des informations, mais ils ne les ont pas financées. Et en plus, ils en tirent des profits, qui sont des profits de revenus publicitaires, qu'ils retirent en quelque sorte, qu'ils confisquent en quelque sorte aux médias qui, eux, ont dépensé de l'argent pour fabriquer ces informations. Donc le plus grand défi, à mon avis, il est économique. Heureusement, on a des moyens de combattre, et notamment, ça se passe au niveau européen maintenant.
Mais est-ce que la course à l'information n'est-elle pas devenue une course à la polémique ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette recherche du clash, du pour, du contre, etc. Mais il n'y a pas que ça, et en fait, même cette course à la polémique se nourrit d'informations, plus ou moins vérifiées, plus ou moins fiables. Mais ça n'empêche pas, en fait.
Vous êtes donc professeur au CELSA, une école de journalisme. Il y a deux semaines, le média Arrêt sur Image publiait un article sur la détresse des étudiants dans l'école de journalisme Sciences Po Paris. Récemment, il y a quelques mois, le sociologue Jean-Marie Caron a publié une étude intitulée « Jeune journalisme, l'heure du doute », dans laquelle il expliquait que 40% des détenteurs d'une première carte de presse quittaient la profession à leur 7e année. Comment expliquer ce désintérêt ou cette souffrance pour les jeunes journalistes ?
Alors, c'est sûr que c'est un métier difficile. Je ne voudrais pas décourager les personnes qui ont l'intention de se lancer dans le journalisme. C'est un métier précaire, en fait, instable, et où souvent on a des rêves et puis on se retrouve à faire quelque chose de complètement différent. Mais moi, ça fait quand même maintenant pas mal d'années que j'enseigne en journalisme au CELSA et je vois tellement d'anciens étudiants qui ont le prix Albert Londres, qui font des émissions, qui créent des journaux, etc. C'est quand même possible. La détresse des étudiants en école, je pense que ça vient d'un climat de compétition et de tension. Peut-être que toutes les écoles ne font pas ça sans vouloir faire de l'autopromotion.
Et dernière question incontournable de l'émission, que représente Sorbonne Université pour vous ?
Bien, comme pour vous, c'est ma maison. J'y ai été étudiante, j'y enseigne maintenant. C'est un lieu très ancien, très beau, qui sait se renouveler. C'est une institution.
Merci beaucoup Adeline Rona pour être venue dans l'émission.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre présence. Les concours, hein, c'est sympa, hein, les L3, les M1, vous ne jugez que par ça. Mais faudrait pas oublier la vertu du sport dans notre scolarité quand même. Hein.
Mais Victoire, c'est à peine si tu montes les escaliers du studio sans faire une crise d'asthme.
Ouais, mais tu sais, chez moi, le problème, c'est pas la volonté.
C'est quoi le problème alors ?
Le porte-monnaie, Mélie, tu vois, le porte-monnaie, mettre 20 euros dans une salle de sport, c'est pas possible.
Mais t'inquiète alors, on a la chronique débrouille pour toi.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, la table !
On nous rabâche souvent que le sport, c'est bon pour la santé, l'estime de soi, le moral, le cerveau. Mais très souvent, ça fait surtout mal au compte en banque, quoi.
Pas d'inquiétude, chers athlètes, car aujourd'hui, Sora vous partage toutes ses astuces pour une pratique sportive à petit prix.
Alors en effet, pratiquer une activité physique régulière, c'est pas toujours facile avec un budget d'étudiant, je le sais. Mais aujourd'hui, je viens à la rescousse pour vous dévoiler quelques-uns de mes bons plans sport. Alors on est d'accord, prendre soin de notre corps et de notre santé mentale, ça devrait être dans le top de nos priorités. Et certes, la zen attitude, c'est bien beau, mais quand je vois qu'un cours de yoga classique coûte entre 25 et 60 euros, ça a plutôt tendance à me crisper qu'à me détendre. Mais heureusement, il y a Connexion Karma. Leur devise, c'est le yoga pour tous et vous pourrez avoir accès à leurs cours en studio sur prix libre à partir de 5 euros. Ça fait du bien au mental, à la souplesse et au portefeuille. Bon après, le yoga, c'est pas pour tout le monde, je l'admets, et j'imagine que certains d'entre vous aimeraient une pratique sportive un peu plus dynamique. Alors si vous cherchez à vous dépenser sans rien dépenser, la ville de Paris a pensé à vous avec le dispositif Paris Sport Dimanche. Chaque dimanche matin, des coachs sportifs vous accueilleront dans divers gymnases et parcs de Paris pour une heure de cardio, de boxe, de muscu ou de préparation physique en toute gratuité. Pas besoin de s'inscrire, il vous suffit juste de vous présenter directement sur le point de rendez-vous en tenue adaptée. Et enfin, si vous êtes de ceux qui veulent faire du sport sans avoir l'impression de faire du sport, j'ai la solution pour vous. Vous vous souvenez quand on était enfant et qu'on sortait faire du roller ou du patin avec nos amis, c'était bien avant Netflix. Eh bien, si vous voulez faire ressusciter votre âme d'enfant tout en pratiquant une activité physique, faites-le avec Patin Collectif. C'est une association qui prône une pratique inclusive du patin à roulettes, peu importe votre genre, vos origines, votre morphologie ou votre situation financière. Après une adhésion à l'association pour 10 euros seulement, vous pourrez participer aux balades en roller quad, aux ateliers en skatepark et aux nombreux autres événements organisés par le collectif. Une belle occasion de se faire des amis et de belles jambes dans le sens littéral du terme. Pour retrouver tous les noms, lieux, horaires et liens de réservation des bons plans que je viens de partager, rendez-vous dans les stories à la une sur notre compte Instagram Cours d'honneur.
Merci beaucoup. Autour de la table, vous faites du sport ou pas ?
Alors, plus maintenant, mais oui. Et puis, comme on parle des JO, je me permets de mettre un sport en avant, le karaté traditionnel, parce que j'en ai fait une douzaine d'années.
Parce qu'il y a deux types de karaté ?
Ouais, il y a le karaté sportif et le karaté traditionnel. En fait, le karaté sportif, c'est... Comment dire ? C'est Dragon Ball Z, enfin tout ce que tu vois où tu te dis « Ah, c'est cool !» Et le karaté traditionnel, c'est ce que tu fais « Ah ouais, non, finalement, bof !» Mais donc, ouais, 12 années de karaté.
Stylé. Et pourquoi t'as arrêté ?
J'ai arrêté, pourquoi ? Parce que les compétitions, c'est chiant à la fin, tu sais. Et puis, non, j'ai arrêté parce que juste avant la ceinture noire. Vraiment, je me suis arrêtée, j'ai fait « Là, c'est bon, je m'arrête. » C'est con, mais bon.
Lilou ?
Si vous voulez, autre sport bizarre. Moi, non, c'est pas bizarre. J'ai fait de la danse orientale. C'est une confession. Parce que dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup de choix. Des danses orientales ou danses classiques. Et j'étais en mode, non, mais en fait, moi, je suis différente. Donc j'ai fait
de la danse orientale.
J'ai
fait de la danse orientale pendant 5 ans.
Ah ouais ?
Et là, actuellement, je fais de la bachata et de la muscu depuis quelques mois. Et
toi, du coup, t'arrives cool. à continuer à faire du sport à Paris ? Parce que moi, j'ai complètement arrêté.
J'arrive, mais c'est un peu un trou dans le budget, je vais pas mentir. Mais... Mais bon, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien.
Carrément. Alors, Victoire, tu te lances dans le sport ?
Tu sais quoi, Mélie ? Je pense qu'en fait, t'as raison. Le sport, c'est pas une question de volonté ou d'argent. En fait, je pense que le sport, c'est un problème de temps. Tu vois, c'est pour ça que je peux pas m'y mettre.
Et tu fais quoi ton temps libre au lieu de tchatcher le tapis de course ou le rameur ?
Bah, je vais souvent au ciné. Et d'ailleurs, t'as forcément dû entendre parler d'Anatomie d'une chute, non ?
Ah mais oui, la BO, c'est une reprise instrumentale de 50 Cent qui date de 2016.
Exactement. Donc tout de suite, c'est P.I.M.P. de 50 Cent, mais repris par le groupe Bacao, Rhythm et Steel Band.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9 FM, et il est 20h36, c'était PIMP de Bacchaorism et Steel Band.
Alors moi, je sais pas vous, enfin moi cette musique me hante, mais autour de la table, vous avez vu Anatomie d'une chute ?
Oui, 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 trois fois.
Alors moi, je l'ai vu, j'ai adoré, ça m'a vraiment réconcilié avec le cinéma français. Et pour la petite anecdote, ils n'étaient pas du tout censés utiliser cette chanson. À la base, ils allaient mettre Jolene, je crois, de Dolly Parton, sauf qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Et donc, ils ont changé.
Il y a le truc chelou, là.
Et pour moi, ça le fait, franchement, ça marche. Et limite, je vois mieux le film avec ce son que Jolene.
Imaginez la scène avec Jolene en fond, genre c'est impossible.
Mais elle est trop obsédante cette chanson, moi elle m'a traumatisée.
Je trouve qu'elle a un truc un peu angoissant, genre malaise.
Même les sons qui sont un peu aigus.
Ouais, exactement, elle est sur le fil, c'est hyper entêtant, mais en même temps il y a la petite dose de malaisance, tout ce qu'il faut quoi.
Mais c'est ce qui fait que le film est incroyable aussi. Hein.
Et y a un autre truc incroyable.
Eh oui, ce truc incroyable, vous savez ce que c'est ? C'est la carte postale sonore à la visite radiophonique d'un lieu emblématique ou méconnu de la Sorbonne.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Chaque semaine, nos équipes baladent les micros de RSU dans les couloirs de notre fac à la recherche des sons incontournables et immédiatement identifiables de la Sorbonne.
Dans ce nouvel épisode, c'est la jeune recrue Isa qui nous emmène redécouvrir la cour d'honneur. Ça ne s'invente pas.
Bonjour, contrôle de la carte et du sac, s'il vous plaît, merci.
À l'instant où vous franchissez la majestueuse porte en bois, vous entrez dans l'enceinte sacrée de la Sorbonne. Bienvenue dans la cour d'honneur.
La Sorbonne était ouverte ce matin.
Un instant, laissez votre regard glisser vers le sol où les lignes blanches tracées sur le pavé révèlent la place ancestrale de la chapelle primitive édifiée en 1326 par Robert de Sorbon. Puis, levez les yeux et tournez-vous vers le sud de la cour. Là se dresse la silhouette imposante de la chapelle de la Sorbonne conçue par l'illustre Jacques Le Mercier et achevé en 1742.
La chapelle, je serais très curieux de voir une cérémonie dedans.
Du coup, on est juste en face de Victor Hugo.
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Figure ultra populaire, proche du peuple.
Ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front.
Mais il nous regarde en pause ou en train de quitter la Sorbonne ou d'y rentrer.
On se demande si on est... Nous sommes à la mesure ou à la hauteur de ces deux profils immenses qui nous sont présentés. Et à la limite, ça encourage à se tenir un petit peu correctement et on a un peu envie de se tenir loin des statues.
Je me tiens à carreau. Il doit y avoir quelque chose dû à l'histoire.
Ça me fait penser à ce que j'ai pu voir à Florence, par exemple. Il y a plein de cloîtres d'églises ou d'anciens monastères qui sont... aussi peint, en fait, plus ou moins en bon état. Là, on a la chance que ce soit en très bon état, mais ça fait penser... Ça enlève le côté bâtiment ou même université qui est maintenant. Et ça nous rapproche plus d'un établissement religieux.
Moi, le soir, quand je quitte la bibliothèque, j'aime bien me balader, regarder tout autour, voir encore certaines salles, certains amphis, certains couloirs encore allumés. Voilà, je regarde là le plafond de la bibliothèque que je trouve très sympa depuis la cour d'honneur. Je trouve qu'il y a un mood et une ambiance assez particulière. On a l'impression d'être les derniers survivants, d'être encore en train de travailler.
J'aime bien la Sorbonne la nuit, forcément parce qu'on y voit plus de choses que quand c'est le jour, ou du moins on fait plus attention à certains détails. Mais j'aime surtout le mouvement qu'on peut y trouver la nuit et certains bruits qui sont... camouflé. J'aime bien les conversations qui s'y trouvent, souvent.
Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi.
Parce que elles sont beaucoup plus intimistes, tout le moins il y a comme l'impression que la Sorbonne nous écrase, ou plutôt nous enveloppe, ce serait plutôt ça. Enveloppe les conversations, elle enveloppe aussi les pas.
On pourrait se sentir perdu dans un grand lieu comme ça, mais c'est pas le cas. Et c'est plutôt chaleureux. Et je pense que c'est de par les lumières et... les grandes fenêtres qui laissent beaucoup passer les lumières.
Et... rentrer dans la Sorbonne avec la lumière, avec le jour, et en ressortir avec la nuit noire et l'éclairage à l'intérieur, je pense que c'est ça le plus marquant.
Toutes ces décorations de pierre, ça habille un peu les bâtiments. Et donc finalement, on sort du côté un peu austère, du côté un peu fermé que ça pourrait avoir. Et ça participe à créer aussi un peu l'impression de décor. On pourrait imaginer voilà, très facilement le bruit d'une calèche sur les pavés. Ça fonctionne très bien et beaucoup mieux d'ailleurs que des baskets. C'est vraiment le lieu où les gens se changent d'univers. Ils passent de la rue pour arriver dans le bâtiment. Je traverse cette cour pour arriver dans l'auditorium Richelieu dans lequel je vais chanter avec plein de personnes pendant 2 heures.
Ce qui est très intéressant avec le sol de cette cour, c'est de regarder juste un instant comment les gens marchent dessus. Si on regarde de près et qu'il y a un bel éclairage dans la cour, on s'aperçoit qu'il y a en diagonale de la porte d'entrée jusqu'à la porte de sortie, un éclairage blanc au sol, ici, comme si le sol signalait le rapport des élèves de l'entrée à la Sorbonne jusqu'à leur entrée en cours. Ce qui est très intéressant, c'est que ce marquage au sol, c'est un marquage de la porte de sortie jusqu'à la porte d'entrée, et c'est une diagonale, ce qui veut dire que c'est le chemin le plus court qui est toujours pris par les élèves. Donc c'est, je crois, au moins amusant, si ce n'est intéressant.
Vous l'aurez compris, dans la cour d'honneur, chaque recoin cache une histoire à découvrir. À très bientôt.
Merci beaucoup, Isa, pour cette super carte postale. Ça se passe comment, l'enregistrement d'une carte postale?
Non, parce que c'est son signe, quand il est content, il fait ça.
Il fait yo-yo-yo et un V de la main, ça marche bien.
Yo à Thomas pour l'initiation radiophonique. Alors, on enregistre des sons. D'abord, on se rend dans un lieu. Et puis, les gens discutent.
Là, vous remarquerez que les personnes sont plutôt contentes de s'entendre parler. C'est cool, enfin, c'est des étudiants de la Sorbonne, quoi, en lettres, en histoire. Mais c'est un peu long. J'avoue que c'est un peu long, surtout pour la première fois.
Du coup, comme tu l'as dit, c'était ta première fois. Est-ce que les autres autour de la table, vous vous souvenez de votre première participation à l'émission?
De ma première fois. Moi, alors, juste
développe, vas-y, Abel.
Deux choses. C'est que ces gens qui ressemblent des trucs en traversant la cour d'honneur. Genre, va en cours, va prendre ton café, arrête de. Voilà. Et ma première carte postale, c'était Thomas, mon guide. C'était à la BU de Clignancourt. Est-ce qu'il se rappelle? Oui, il se rappelle, ouais. Et c'était à la BU de Clignancourt et voilà.
T'avais enregistré des pages, hein?
Bah ouais, enfin genre lui il faisait le guide en mode alors là il y a des livres, là il y a. Et après on a enregistré des bouts de clavier, de trucs en chuchotant.
C'était de l'ASMR le truc.
Ouais, c'était un peu de. Bah c'était dans une BU, mais c'était un peu de l'ASMR, ouais. Mais bon, c'était cool.
En parlant de Thomas, ta première participation à l'émission?
En l'an de grâce.
À la préhistoire.
Nous étions en l'an de grâce 2013 à l'époque. J'étais jeune et vaillant, j'avais encore tous mes cheveux. Et je traversais moi aussi la cour d'honneur, écrasé par le poids de ses pierres, comme les auditeurs de Isa Margaret nous l'ont raconté dans sa carte postale. Et la première fois que j'ai parlé dans un micro sur Radio Sorbonne, sachez qu'il a neigé ce soir-là. Oui, j'ai réussi à
le miracle.
J'ai réussi à faire neiger sur Radio Sorbonne. Alors j'espère que vous aussi, vous allez réussir à faire au moins tomber la pluie, non?
Bien sûr qu'on va réussir à faire tomber la pluie. Lou, tu te souviens de ton premier jour?
Oui. J'étais super stressée et je connaissais pas les gens et j'ai fait une petite envoi d'en personne sur Montaigne. J'étais très stressée, mais je voulais revenir sur cette très belle carte postale. Je pense que les élèves de la Sorbonne y sont beaucoup plus transcendés par leur lieu que ceux du CELSA. Voilà. Petit clash pour le Valois, s'il vous plaît, changez les locaux,
et
c'est
du
un
coup,
message.
Toi, Isa Margaret, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu traverses la cour d'honneur?
J'avoue que c'est un lieu assez emblématique et puis je trouve que les bâtiments sont très beaux et je me sens très bien, c'est plutôt calme. Donc généralement je lis le soir quand je passe par là et je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que les étudiants qui la décrivaient étaient très élogieux, mais je trouve que c'est bien parce que ça nous a aussi permis de découvrir des petits secrets de la cour d'honneur. Vous aviez remarqué, vous, les traces au sol comme ça qui trace le trajet des étudiants.
Avec la stèle.
Jeanne, elle a envie de parler, là, je la sens, là.
Oui, parce que j'ai pas le même ressenti de la cour d'honneur, c'est-à-dire que la première fois que j'ai marché à Sorbonne, je me suis tendue la cheville. J'ai insulté tout Richelieu.
Ça, c'est un bon premier jour. C'est ce que j'ai dit à l'émission de Richelieu quand j'ai parlé avec des pavés.
J'ai pensé à toi, je me suis dit.
Bon. En tout cas, entre mon pavé culture sur les pavés de la cour d'honneur et cette carte postale, on la connaît par cœur, notre cour d'honneur. Mais ceux qu'on connaît un peu moins, c'est ceux qui les ont foulés, ces pavés. On n'aurait pas besoin d'un petit Sorbonne en personne pour y remédier. Ah si, ça tu vois, c'est une bonne idée, Mélie. Alors tout de suite, c'est Sorbonne en personne.
On prend la direction de la
Sorbonne en personne.
Encore vous ? Encore eux ? À croire que vous êtes abonnés au grand personnage de la Sorbonne ?
C'est pas ça qui va vous rapprocher d'eux, hein ?
Bref, laisse-les s'amuser, Mélie, tu connais les ravages du chômage. Si on leur retire les Sorbonnes en personne, qu'est-ce qui va leur rester, hein ?
Ouais, c'est pas faux, on peut pas non plus tout leur prendre. Alors aujourd'hui, Abel Elodine, vous nous parlez d'un grand scientifique qui a fréquenté, comme nous, les bancs de la Sorbonne.
Pierre Curie.
Quoi ? Y a un problème, là.
Non mais attendez... Comment osez-vous penser que l'avant-veille de la journée internationale du droit des femmes, nous allions encore vous parler d'un homme ?
Bande de misogynes.
Non, aujourd'hui, on vous parle de la femme la plus importante de la Sorbonne.
Après toi, Marine.
Marie Curie.
C'est le 7 novembre 1867, en Pologne, à Varsovie, que naît Marie Curie. Et comme toi, Laudine, ses deux parents étaient profs.
Ouais, j'espère que c'est pas une maladie génétiquement transmissible. Enfin bref, Maria Salomea Chlokodowska, ils auraient pu choisir plus simple comme prénom quand même, ne vit pas une enfance facile. Durant ses deux premières années, sa mère et sa sœur meurent du typhus et de la tuberculose.
Ça me rappelle ce bon vieux Guizot.
Suite à ce traumatisme, elle se réfugie dans les études. Manque de bol, les femmes n'ont pas le droit de poursuivre à la fac en Pologne. Et c'est donc à Paris qu'elle tente sa chance. Elle s'inscrit en licence de physique à la Sorbonne.
Heureusement pour elle qu'il n'y avait pas Parcoursup à l'époque. Hein.
Tellement jolie, tellement sorcelle, la Seine, la Seine, la Seine.
Arrivée à Paris, elle a vraiment beaucoup de chance. Elle est logée chez son beau-frère dans un des plus beaux quartiers de la capitale.
Gare du Nord.
Bizarre. Nicolas.
Cela ne l'empêche pas de valider sa licence, mention très bien, en finissant major de sa promo.
On t'en souhaite évidemment tout autant, Lilou.
Par contre, Victoire, force à toi.
Grâce au cours d'un super prof, Monsieur Painlevé, sûrement un ancêtre de Mélie, elle obtient un stage dans les laboratoires de Gabriel Lippmann. Là-bas, elle y rencontre un autre petit stagiaire, plutôt beau gosse.
Oui, oui, plus que toi, Thomas.
Pierre Curie.
Et là, c'est le coup de foudre. Peu de temps après, il se marie à Sceaux.
Ah mais je connais Sceaux, c'est une station du RERB ça ?
Ouais, dans la station du RERB.
Donc après ce mariage dans la station du RERB, en 1897, arrive un petit bébé qu'il deviendra aussi presque célèbre que sa mère, Irène Curie.
Et la même année, Maria Chlowska Chabadabana est première à la Greg.
Elle se découvre une passion pour la radioactivité, elle a du bol parce que ça va la rendre très célèbre. Oula, c'est radioactif.
Attention.
D'ailleurs, ça te fera plaisir, Victoire, parce que c'est dans ces années-là qu'elle découvre le polonium, qui sera nommé en l'honneur de son pays d'origine, la Pologne.
Boulas Bicina.
Comment ça, Lodi?
Ça veut dire trop forte en polonais, Abel. Et le 10 décembre 1903...
elle et son mari reçoivent le prix Nobel de physique. En reconnaissance pour leur service rendu.
Et nous, Thomas, on le reçoit quand, le prix Nobel de radio ?
Parce que c'est quand même un peu grâce à nous que les audiences, elles explosent.
Ces travaux sur la radioactivité permettent de développer la radiographie en médecine.
Donc Thomas, la prochaine fois que tu te casseras le poignet en faisant le malin en roller, tu pourras penser à elle.
Et puis, c'est là qu'elle entre dans l'histoire de notre université. Elle est nommée prof de physique, à la chaire de physique, de la faculté de sciences.
Là, première femme prof de la plus belle fac de France.
Et en 1914, elle se fait construire le fameux pavillon des sources qu'on peut toujours visiter aujourd'hui.
Thomas, n'hésite pas, tu vas adorer.
Mais Abel, il n'est pas radioactif ?
Faut pas le dire.
Et puis éclate la Première Guerre mondiale. Ses travaux en radiographie sont bien utiles. Ils servent à soigner les soldats blessés au front.
Et c'est en 1934 que s'achève la vie de notre chère Marie Curie. Elle meurt à 66 ans d'une leucémie causée par les produits radioactifs qu'elle a manipulés.
Elle s'est faite radier.
Même irradier.
C'est toi qui irradies de bonnes ondes, Abel.
Notons que jusqu'à sa mort, elle aurait eu plein d'amis super intelligents, un peu comme moi, notamment Albert Einstein, avec qui elle partira plusieurs fois en voyage pour coordonner des travaux de recherche scientifiques à l'international.
Mais l'histoire de la famille Curie n'est pas finie. Sa fille Irène se verra décerner le prix Nobel de chimie et sa fille Ève Curie, le prix Nobel de la paix.
Une famille de génies. Bref, n'oublions pas que c'est bien une... Bref, d'ailleurs, n'oublions pas que c'est de la famille Curie que vient le plat emblématique, le poulet Curie.
Incroyable, mais t'as toujours des infos exclusives, toi, Abel. En parlant de poulet au curry, ce serait pas l'heure d'aller manger ?
Mais si, d'abord, on a quand même notre prochaine animation à préparer, Elodine, soyons sérieux.
C'est vrai, c'est vrai. Et qui sait, dans cette chronique, d'ici là, peut-être que ce sera de vous dont on parlera. Jingle ?
Qu'il n'y a pas de jingle.
Bon, s'il y a bien une chose que moi j'ai retenue de ce Sorbonne en personne, c'est que le chômage, ça rend très aigri. Quoi qu'il en soit, c'est déjà la fin de cet épisode de Cours d'honneur.
On le sait, on va beaucoup vous manquer.
Mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur les réseaux.
Sans oublier qu'on est là un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9 FM.
Merci à toute l'équipe. Madeleine.
Marine.
Merci, quelqu'un vient de décéder. Hein.
Abel.
Merci.
Lodine.
Merci.
Jeanne, un truc plus créatif que merci.
Non, que je veux.
Sora.
Obrigada.
Ah, ça on aime. Lilou, merci en polonais.
Ah, bah, je parle pas polonais, donc gracias.
Merci, bon.
Isa Margaret.
Merci beaucoup de votre accueil, ravie de faire partie de l'équipe.
Et bravo à notre recruteur en chef qui, on l'espère, surtout pour Isa, Margaret nous a préparé des crêpes. Merci Thomas.
Mais oui, bien sûr, les crêpes comme tous les mercredis. Je suis ravi. J'aurais pu également vous dire que moi aussi je m'étais baigné dans la Seine avec mon célèbre maillot short jaune que nous avons vu se balader sur les plages de Roscoff. J'aurais pu vous dire que oui, j'ai hâte de faire du roller et oui, bien sûr que je vais relever le défi d'aller faire un petit peu de sport gratuitement comme nous l'a conseillé Sora. Et oui, bien sûr, je vais aller visiter le pavillon des sources à quelques pas de la Sorbonne ou étudier la célèbre Marie Curie. Sachez que le poulet au curry c'est excellent et que c'est à Carcassonne qu'ils ont récemment inauguré deux rues pour Pierre et Marie Curie qu'ils ont écrit Curie comme le curry, bien sûr. Oui, ça a été vraiment des panneaux qui ont été des erreurs monumentales. C'était il y a deux semaines dans la ville de Carcassonne. Je vous invite à aller les récupérer, à les ramener ici.
Est-ce que vous pouvez écouter Thomas s'il vous plaît, il finit son laïus là.
Merci à tous, salut, ciao.
Allez. Allez,
on remercie aussi Radio Campus et le service culturel pour leur soutien, mais aussi et surtout nos chers auditeurs qui sont, on vous remercie, de plus en plus nombreux.
D'ici là, prenez soin de vous.
Bisous, bisous.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.